On est de retour à la game sur BPM Sport ici à Montréal jusqu'à 14h. Et tel que prévu, ben on l'a en entrevue avec nous. On va lui demander où il se trouve exactement. C'est Samuel Côté, qui est un triathlète et qui a participé, on en parlait, à la compétition Norseman qui a lieu samedi en Norvège. Samuel Côté, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Et ben, c'est ça, c'est ma première question. Est-ce que tu es encore en Europe?
Oui, je viens d'arriver à Oslo, juste il y a quelques minutes. Fait que je suis encore en Europe pour quelques jours.
Bon, OK. Alors, j'ai parlé de la compétition, j'ai détaillé un petit peu ce qu'il fallait faire. Mon Dieu, ça avait pas l'air très, très facile, ça. Est-ce qu'on peut parler de... C'est ça, j'ai dit un triathlon extrême, Samuel Côté, c'est exactement ça, là.
Oui, c'est la bonne façon de décrire cet événement-là. En fait, maintenant, les Ironman, ça commence à être connu. Fait que les gens connaissent un peu les distances. Donc, c'est les mêmes distances qu'un Ironman. C'est juste qu'on appelle ça un triathlon extrême parce que ça se fait dans des conditions extrêmes. Donc, il y a beaucoup de dénivelé, du froid, de la pluie, du vent. Fait que c'est vraiment... si tu trouves qu'un Ironman, c'est pas assez, ben tu vas faire un Ironman extrême, puis t'en as pour ton argent.
Bon, et toi, c'est ça qui est arrivé? Tu trouvais qu'un Ironman normal, c'était trop plate, c'est ça?
Non, ben tu sais, un Ironman, c'est un super défi, là. C'est juste que, éventuellement, t'en cherches toujours plus. En fait, c'est un peu ça, l'histoire des athlètes d'endurance. On est tout le temps en train d'essayer de repousser nos limites. Puis, ben, éventuellement, une fois que tu as coché la case du Ironman, tu te dis what's next? Puis, bon. Ben, c'était ça qui était sur ma liste.
OK. Et là, ben, tu nous as parlé un petit peu rapidement là, des conditions. Décris-nous ça un petit peu. Là, toi, tu arrives là samedi, si je comprends bien, ça commençait à 5 h du matin, c'est ça?
Oui, exactement. Mais il faut embarquer. Là, dans le fond, la course commence à 5 h du matin, mais une des particularités du Norseman, c'est que. On part d'un gros traversier, un bateau qui traverse des voitures. Ouais. Dans le fond, il nous charge les 250 athlètes sur ce traversier-là. Puis, il nous largue en plein milieu d'un fjord à 4h45 du matin. Tu sautes dans l'eau qui est entre 11 et 13 degrés Celsius. Puis là, ben, ils te disent « Ah ouais, ben, nage jusqu'à la rive là, à 3,8 km de là. » Fait que C'est vraiment spécial. Nous, on a eu une belle... On était chanceux, là, côté météo. Et on a eu un beau, tu sais, genre de lever de soleil en nageant. On était chanceux, là, tu sais. Mais voilà, fait que c'est un peu ça, les conditions. Puis après ça, ben, t'embarques sur le vélo, tu sais, il est encore tôt, là. Il est à peine 6h30 du matin. Fait qu'il fait froid, il y a du vent. C'est très humide, la Norvège, la température change constamment, là. Il y a un moment, il y a des rayons de soleil, puis 5 minutes plus tard, il pleut, là. Fait que c'est un peu ça, là. C'est un peu les challenges additionnels qu'on affronte ici en Norvège.
Ouais, mais là, il y a eu le vélo, mais après ça, c'est pas fini. Après ça, il y a un marathon de 42,2 km, là. C'est ça, je comprends, là.
Oui, c'est ça, exact. Bon. Fait que, après, tu poses le vélo, t'as un marathon, puis le marathon se finit avec une ascension. Dans le fond, le finish line se fait en altitude à 1800 mètres en haut d'une montagne très connue ici qui s'appelle le Gostetoppen. Et en gros, c'est ça. Donc, le marathon finit avec une ascension de 17 km à 10% de moyenne. Mm. Donc, en gros, ça fait 8-9 heures que tu es à l'effort. Puis, il te reste 17 kilos qui vont te prendre plusieurs heures à faire.
Bon, et là, on comprend, là, Samuel Côté, que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. Je veux dire, tu sais, moi, je cours 5 km par jour, je me trouve très bon, là, mais ça serait probablement pas une bonne idée que j'aille faire ça, là. Ça prend un entraînement vraiment, vraiment, j'imagine, chargé, un entraînement sérieux. Combien de temps tu t'es entraîné pour ça, là?
Moi, ça fait plusieurs années que je fais du triathlon. Puis à la base, moi, je faisais que des courtes distances, des triathlons qui étaient très courts, mais très, très explosifs. Puis ben, tranquillement, pas vite, au fur et à mesure des années, je suis allé dans un peu plus long. Fait que j'ai fait des demi-Ironman, puis après ça, des Ironman. Puis éventuellement, j'ai débouché sur des Ironman extrêmes. Mais ça prend énormément d'entraînement, c'est beaucoup de préparation. Puis c'est très chargé, comme tu l'as très bien dit, là, c'est très chargé comme planification d'entraînement, mais ça vaut la peine. En tout cas, c'est des événements qui sont hauts en couleurs, puis qui vaut la peine d'être relevé.
Peux-tu me donner une idée d'une journée normale d'entraînement là, que tu as faite en vue de cet événement-là? Là, ça avait l'air de quoi?
Ben, pour moi, il faut prendre en compte que je fais ça semi-professionnellement, là, donc j'en fais beaucoup. Je fais entre 4 et 6 heures d'entraînement par jour. Donc, ça fait entre 25 et 30 heures par semaine d'entraînement. Donc, c'est pas mal. C'est beaucoup, beaucoup d'endurance, de longues sorties. Comment t'expliquer rapidement? C'est pas beaucoup, on gère beaucoup l'intensité, tu vois? Genre on se met pas à bloc, on n'est pas en train de courir des PR tout le temps, puis en train de faire des sprints et compagnie. C'est vraiment de l'endurance fondamentale, on essaie de construire une grosse base, puis pour arriver sur des événements qui durent 8, 9, 10 heures, ben t'as pas besoin d'être super explosif, right? T'as juste besoin d'être endurant, puis d'avoir une bonne caisse pour être capable d'encaisser tout ça.
Et en termes de, je présume aussi, en termes de nutrition, tu peux pas faire ce que tu veux non plus. Là. J'imagine qu'il y a un régime très, très strict à lequel tu dois adhérer pour faire ces compétitions-là.
Oui, mais en même temps, pas autant que les gens le pensent. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Les gens, ils pensent qu'on commence à... On est là avec nos balances, là, puis on pèse toutes nos macros. Là.
Ouais.
C'est pas vraiment le cas. En fait, on s'entraîne tellement que... Même les gens sont surpris plus de ce qu'on mange. Tu sais, des fois, on fait pas trop attention ou on va manger un peu de Nutella ou tu sais, des trucs un peu qui sont classés comme junk food. Là. Des fois, nous, on peut se le permettre parce que ben on brûle tellement de calories que ça rentre puis ça sort. Là. Tu sais, ça reste pas longtemps dans notre corps. Après ça, par contre, les jours qui mènent à la course, là, on commence à regarder un peu plus puis à faire plus attention à ce qu'on mange. Puis c'est un peu plus strict. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, là, des entraînements, c'est pas millimétrique là, comme nutrition. Il faut juste s'assurer de manger suffisamment. Parce que c'est ça un des défis, c'est qu'on brûle tellement d'énergie que si on est en déficit calorique pendant trop longtemps, on risque de juste se blesser ou se faire mal, ce qui n'est pas mieux.
Et là, quand les amis t'appellent pour aller voir la game autour d'une coupe de bière, c'est non, là.
Effectivement, moi je bois pas d'alcool. Ça c'est un choix personnel. Genre, je connais des athlètes qui performent très bien, qui se permettent des bières à droite à gauche, c'est pas un problème. Mais ouais, on le fait pas ça une fois par semaine, mettons. Là.
Ouais. Et après ça, là, parce que là, cette compétition-là qui a eu lieu samedi. En heure absolue, c'est combien de temps là, si on colle les trois épreuves ensemble, ça fait combien de temps?
La durée de l'épreuve au complet?
Ouais.
Moi, ça m'a pris 12h40.
Oh boy.
Donc, en gros, je suis parti donc à 5h du matin, puis je suis arrivé, il était presque 18h.
Wow. OK, puis là-dedans, on s'entend qu'il n'y a aucune ou à peu près il n'y a pas de pause vraiment. Là. Tu arrêtes pas là.
Dans le fond, il y a les pauses que tu t'accordes. Donc, le chrono, il tourne en continu. Puis, ben, le but, c'est d'aller traverser le finish line le plus vite possible. Fait que tu peux prendre des pauses si tu veux, mais c'est pas ça le but.
C'est ça. D'accord. Ouais. Donc, c'est ça. La pause que tu as, c'est quand tu changes d'épreuve, j'imagine. Il y a une certaine belle.
Ouais.
Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est un petit peu.
Exact. Et on a des transitions qu'on appelle. Fait que entre chaque sport, on rentre dans une zone de transition. Puis c'est là qu'on change d'équipement. Donc, on va mettre nos souliers de vélo, on va enlever notre wetsuit, on va enlever nos lunettes de natation, puis là, on va mettre notre casque, nos souliers de vélo, puis on embarque sur le vélo. Ça, c'est comme une mini-pause, tu sais, mais t'es pas vraiment en repos, là. T'es juste plus à l'effort, mais t'es quand même actif.
Ouais.
Puis après, c'est pareil pour la deuxième transition, là, après le vélo, avant la course à pied.
OK. Et tu perds combien de poids au bout de ça?
Ben en fait la plus grosse partie du poids que tu perds pendant l'événement c'est du fluide, donc c'est de la déshydratation. En termes de calories dépensées, c'est entre 7 et 8 000 calories là, de dépensées dans la journée. Donc juste ça représente quoi? Si une livre c'est 3500 calories, c'est environ 2 livres et demi de gras, ou en tout cas de matière adipeuse, mais on peut perdre un autre 5 livres d'eau là, facilement.
OK. Samuel Côté, est-ce que tu restes avec nous? On prendrait une petite pause et j'ai plein d'autres questions au retour. Est-ce que ça te va?
Ben oui, certainement.
Peut-être on est de retour sur BPM Sport et on est toujours en conversation avec le triathlète Samuel Côté qui revient à peine là, d'une épreuve, ma foi, éprouvante, celle du Norseman qui a eu lieu donc samedi en Norvège. Samuel, ta course, est-ce que tu es satisfait?
Non, je suis pas très satisfait, mais je suis content d'être allé jusqu'au bout. J'ai eu une journée un peu difficile. Les étoiles se sont comme pas alignées, puis j'ai bien nagé, mais je suis sorti, quand j'ai sauté sur mon vélo, j'étais complètement vide. J'avais pas d'énergie, j'étais incapable d'appuyer sur les pédales. Pourtant, d'habitude, c'est comme mon épreuve de prédilection, c'est l'épreuve où j'ai le plus de, où je peux faire le plus de différence. Puis là, c'était complètement l'inverse, je me faisais dépasser, j'étais collé au sol, puis j'ai été comme impuissant, donc c'était un peu dommage, puis je me suis même dit, moi je finirai pas cette course-là, là. T'es une heure dans une épreuve de 12 heures, tu te dis, my god, il me reste encore 11 heures à souffrir, puis j'avais des gros objectifs pour cette course-là. Moi, dans le fond, il y a 6 semaines, j'ai remporté une autre épreuve équivalente à celle-ci, mais en Suisse, qui s'appelle le Swissman. Et puis, en ayant remporté cette course-là, ben, ça me plaçait dans les favoris pour remporter le Norseman. Puis, fait que j'avais des gros, gros objectifs, puis j'étais bien placé à la sortie de la natation, mais j'étais complètement vide sur le vélo, donc je me faisais juste passer, puis je perdais des positions, puis... Je me disais, oh my god, mes objectifs puis mes rêves sont en train de s'envoler. Puis ben là, tu sais, ça se met à tourner dans ta tête de façon négative. Puis tu te dis, là, ça sert à rien que je continue, tu sais.
Et t'as fini 42e au bout de tout ça. Mais à quelque part, Samuel, il n'y a pas aussi... je sais que c'était pas ce que tu voulais, puis que tu voulais certainement finir plus haut que ça, mais à quelque part aussi, il n'y a pas une certaine satisfaction de savoir que tu l'as complété, cette épreuve-là.
Oui, je suis très satisfait d'être allé jusqu'au bout, surtout considérant l'investissement que c'est et le prestige de cet événement-là. Il faut garder en tête que c'est un événement qui y a plus de 6000 personnes qui appliquent chaque année pour pouvoir prendre part. Puis il y a seulement 250 participants, 250 spots. Donc, d'abandonner après 15 kilos de vélo, quand la course a fait 226 kilomètres, moi je trouve que c'est un peu un manque de respect pour tous ceux qui rêvent de pouvoir participer à cette course-là puis qui ont jamais l'opportunité de le faire. Donc je pense que c'était important de se rendre jusqu'au bout puis de se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Bien que c'était pas dans les conditions que je voulais, je suis satisfait de l'avoir fait. J'avais ma famille qui était là, j'avais toute mon équipe aussi. Donc je pense que c'était important pour leur montrer ma gratitude, mon respect de me rendre jusqu'au bout de l'épreuve.
Et t'as parlé du statut semi-professionnel que tu as. Est-ce que donc tu as un travail en tant que tel et ça l'entraînement c'est quelque chose que tu fais j'allais dire par temps libre, je sais pas si c'est la bonne expression, mais comment ça fonctionne exactement? Ouais.
C'est un peu plus le contraire en fait. Je m'entraîne à temps plein puis j'ai des jobs un peu sur le side pour complémenter mon revenu puis me permettre de pouvoir couvrir toutes ces dépenses là. J'ai aussi des super compagnies qui me supportent puis qui me permettent de vivre toutes ces belles expériences là. Mais quand je dis semi-professionnel, c'est parce que les gens pensent souvent au hockey puis au basket et compagnie, puis ces joueurs là qui, tu sais, qui gagnent des millions. Le triathlon, c'est vraiment pas ça, tu sais, c'est un sport en essor, c'est vraiment un plus petit sport. Et donc, moi, en gros, j'ai le statut de professionnel, mais je gagne pas ma vie uniquement du triathlon. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu de réticence à dire triathlète professionnel, parce que, réalistiquement, tu sais, je ne gagne pas ma vie uniquement du triathlon.
Est-ce qu'il y en a qui le font?
Oui, bien sûr. Il y en a de plus en plus, mais c'est un petit club select là, quand même.
Ouais, et ça doit être, j'imagine, je pense que c'est plus en Europe, non? Ou ça, c'est beaucoup plus peut-être reconnu, est-ce que je me trompe?
Le triathlon est beaucoup plus développé, oui, en Europe, mais il y a pas mal de triathlètes nord-américains, là, des Canadiens, des Américains qui réussissent aussi à en gagner leur vie. Donc, tranquillement, pas vite, là, un peu partout dans le monde, là, c'est un sport en essor.
Ouais.
J'avais une question pour toi, Sam, c'est Olivier à la mise en onde, ça va bien?
Bonjour Olivier. Oui,
bien
ça
sûr.
va bien, merci.
Ça ressemble à quoi les bourses? Est-ce qu'il y a des bourses, premièrement, dans ces compétitions-là extrêmes de triathlon?
Non, il n'y a pas de bourse dans les triathlons extrêmes.
Même pour
Tu as
le top
juste les
10,
bragging
exemple.
rights de pouvoir te rendre jusqu'au finish puis d'avoir une belle position.
Ouais, parce que c'est donc, mais l'argent vient des commanditaires, j'imagine. Donc, plus tu gagnes, j'imagine, plus t'es vu, plus il y a de
Exact.
commanditaires, plus t'as des revenus, j'imagine.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. La plupart des revenus, même les meilleurs athlètes qui, eux, vont gagner des bourses sur d'autres compétitions. Parce que là, on parle de triathlon extrême. Triathlon extrême, c'est, on va se le dire, c'est une sous-niche du triathlon. Donc déjà, le triathlon, c'est un petit sport. Le triathlon extrême, c'est encore une petite portion de ce sport-là. Donc on n'est pas encore rendu à avoir des bourses dans cette sous-niche. Mais quand on parle de Ironman, tu sais, si on pense au Ironman à Mont-Tremblant, ben, ceux qui gagnent à Mont-Tremblant, ils ont des bourses. Même ces athlètes-là qui sont professionnels, la plupart de leurs revenus viennent de commanditaires. Parce que de toute façon, ils veulent pas non plus avoir à rely sur le fait de gagner une course pour pouvoir mettre du pain sur la table. C'est beaucoup trop stressant, puis ça amène beaucoup trop de charge mentale le jour de la course. C'est vraiment un sport où on gagne notre vie à travers les commanditaires puis à travers les compagnies qui décident d'investir en nous.
Ouais. Et Samuel, si je me trompe pas, t'as 26 ans, c'est bien ça?
Oui.
Bon, alors, il t'en reste combien? Parce que là, c'est, pour des joueurs de hockey, c'est facile. On dit, ouais, 33 ans, 34 ans, peut-être 40, bien chanceux. Mais je présume que 40 ans en triathlète extrême, ça ne doit pas en avoir beaucoup. On peut faire ces compétitions-là jusqu'à quel âge, là, de manière réaliste?
Ben, alors, si on se base sur le Norseman il y a 2 jours, il y a vraiment du monde de tout âge. Donc, tu peux faire des triathlons extrêmes jusqu'à 50, 60, 65 ans, mais c'est sûr que c'est pas là ton prime. T'sais, ces gens-là, ils font ça de façon très amateur, puis ils font ça de façon juste pour le compléter, puis relever des défis, ce qui est super, ce qui est très noble. Après, t'sais, si tu veux gagner ta vie de ça, puis tu veux être performant, tu veux gagner des courses, ben là, c'est sûr que ta fenêtre d'opportunité est beaucoup plus courte. Donc, en triathlon, souvent, on pique entre 25 et 33, 34, 35, dépendamment de, c'est ça, comment ton corps est capable de dealer avec toute cette charge d'entraînement-là.
Et d'ailleurs, quand on revient d'une course comme celle de samedi, on le répète, là, il y a eu de la nage, il y a eu 180 km de vélo, tu as fini ça avec un marathon de 42,2 km. Quand on revient d'une course comme ça, Samuel Côté, comment on se sent physiquement, là? Je présume que le lever le lendemain doit pas être facile.
Non, c'est sûr que tu boites pendant une couple de jours, puis les déplacements sont un peu plus raides. Je pense qu'en fait, pour un jeune de 26 ans, ça te donne un petit peu le goût de le avant-goût de à quoi ça va ressembler de se lever de son lit à 75 ans ou à 85.
Ouais.
T'es un peu tout courbaturé, puis tu te déplies, puis t'es genre, ouf, je savais pas que j'avais des muscles là, puis. Fait que, ouais, c'est sûr que t'es assez raqué, là. Tu pousses ton corps à l'extrême, fait que t'es bien courbaturé le lendemain, mais bon, à mon âge, ça passe quand même assez vite, là. Après une semaine de repos, on est capable de quand même revenir et être actif, là.
Oui, j'allais te demander, là, est-ce que tu passes les prochains jours dans des bains de glace, là? Ça va être juste ça, j'imagine, là.
Ben, des bains de glace, oui, ça peut aider. Là, en ce moment, j'ai comme pas accès ici en déplacement en Norvège. Hier, dans le Airbnb, il y avait un sauna, fait qu'on s'est gâté, on a fait un sauna, ça fait du bien. Mais bon, de toute façon, après un Ironman comme ça, on passe plusieurs jours sans s'entraîner du tout, là.
Oui.
Donc, c'est sûr que bon, si on t'a accès à un bain de glace, tu le fais parce que ça aide. Mais c'est pas comme si j'avais une autre échéance là rapidement et qu'il faut que je récupère rapidement pour pouvoir refaire une compétition.
Et bon, d'ailleurs, Samuel, je voulais te poser cette question-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? Est-ce que tu rentres au Québec, dans les prochains jours?
Ouais, je reviens dans une dizaine de jours. Là, je fais un petit passage par la France. Dans le fond, moi, cet hiver, j'étais installé dans le sud de la France, dans le coin de Nice. Et là, je vais aller récupérer toutes mes affaires pour revenir au Québec pour le restant de l'année. Fait que, ouais, à partir de dans une dizaine de jours, je suis de retour au Québec.
Et quelle sera la prochaine course? Parce que je comprends qu'il y en aura une autre, là, t'arrêteras pas maintenant. Quel est le prochain défi?
Ah, ça, on le sait pas encore. Pour le moment, il n'y a rien au calendrier. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une autre course un peu plus tôt cette saison. Puis là, le corps est bien usé. Donc, on va voir comment je vais récupérer du Norseman. Je vais prendre du repos et puis avec la façon dont le corps récupère de ce genre d'événement-là, après on prend une décision de voir si on en fait un autre cette saison-ci ou si on boucle la boucle et puis on commence à préparer directement 2026.
Ouais, parce que là, j'imagine que tu peux pas en faire. C'est pas le genre de choses que tu fais à chaque mois, là. Je présume qu'il y a besoin d'une grosse période de repos éventuellement. Ça serait quoi, là, pour un triathlète normal, entre guillemets? Combien de compétitions par année?
Ben c'est ça. Pour faire des Ironman, les gens qui en font deux, trois par année, c'est comme pas mal le maximum. C'est déjà énorme. Puis après, il faut qu'ils soient bien répartis dans la saison. Tu vois, comme moi, en ayant fait un Ironman il y a 6 semaines, je pense que c'était beaucoup trop rapproché du Norseman et c'est pour ça que mon corps était peut-être pas prêt à retourner dans un gros effort comme ça. Si tu l'étales bien sur la saison, tu sais, si t'arrives à en faire un en début d'année, un en milieu d'année, puis un en fin d'année, ben ça, tu peux en faire trois, mais c'est vraiment dur de les enchaîner là, parce que, comme tu le dis, c'est vraiment dur de récupérer, ça prend du temps. Puis ça prend du temps aussi à préparer. Donc, tu sais, après un événement, il faut que tu prennes du temps pour récupérer, puis après, il faut que tu reprennes du temps pour le repréparer. Donc, tu peux vraiment pas en faire un à tous les mois, là, c'est irréaliste.
Ouais, et puis l'entraînement, est-ce que tu peux reprendre l'entraînement, je sais pas, moi, en revenant au Québec dans une dizaine de jours déjà, ou t'as besoin encore de t'accorder un petit peu de pause?
Ouais, en général, moi je prends 7 à 10 jours là, après les Ironman. Mais c'est sûr que quand je reprends, là, je reprends pas au taquet, là, c'est pas, je reprends de façon graduelle. Donc 7 à 10 jours de repos complet, puis après ça, ben tu reprends l'entraînement, tu refais un build-up, là, tu reprends ça progressivement. Mais après, c'est propre à chacun. Moi, c'est aussi parce que je suis jeune, je suis capable de prendre pas mal de charges d'entraînement. Mais tu sais, quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui a besoin de plus de récupération. C'est 2 à 3 semaines, peut-être même un mois là, après le Ironman pour bien récupérer puis pouvoir repartir sur des bonnes bases.
Ouais. Et puis à long terme, est-ce qu'on sait, parce que tu sais, maintenant, Samuel, dans la science, étudie un petit peu tout. On comprend quels sont les dangers, par exemple, quand on joue au hockey, quand on joue au football, on est capable un peu d'associer les risques à certains sports. Dans le cas d'une discipline comme ça, là, le triathlon est extrême, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on sait un petit peu là, à quoi on peut s'exposer un petit peu pour le futur?
Non, effectivement, c'est une très bonne question, mais c'est pas. J'ai malheureusement pas de bonne réponse à te donner. C'est sûr qu'on use notre corps énormément, mais c'est que c'est difficile parce qu'avec la science, on a des études qui vont dire que bon, on se défait les cartilages dans nos os ou en tout cas dans nos articulations de genoux, de hanches et de chevilles. Il y en a d'autres qui disent que comme on est ultra actif, ben on les renforce puis ils sont justement tellement utilisés qu'on les rend un peu comme unbreakable, là, genre super résistants. Fait que c'est pas mal des études qui se contredisent, puis on n'a comme pas arrivé encore à un consensus. Mais moi poursuivre, tu sais, moi ça fait une couple d'années que je fais du triathlon, puis ben les héros que je suivais quand j'ai commencé le triathlon sont tous rendus à la retraite, puis ils ont une très belle retraite, ils sont encore très actifs, ils sont encore très en santé, ils ont pas de problème à ce niveau-là.
Bon, ben écoute, on va te souhaiter pas une retraite maintenant, Samuel Côté, tu as seulement 26 ans, mais on va te souhaiter certainement du repos pour le prochain jour, c'est ce que tu vas faire de toute façon, et on va te suivre avec intérêt, peu importe quand sera la prochaine course, et puis on va te souhaiter la meilleure des chances. Ça a été un plaisir de t'avoir à l'émission ce matin.